Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous cet après-midi. J'étais ravie aussi d'assister aux conclusions d'une des séances que vous avez eues ce matin. J'imagine qu'il y a eu beaucoup de débats très intéressants. Moi, je travaille pour ENOP, c'est en anglais European Network of Political Foundations. C'est un réseau qui a été fondé il y a une dizaine d'années. Les fondations politiques en France, on n'est pas très très familier avec ce concept. Peut-être que certains d'entre vous savent que Gabriel Péri est une fondation politique. Il y a des pays en Europe et dans le monde où cette tradition est beaucoup plus importante. Je pense en particulier en Allemagne, exactement, où vous avez peut-être entendu parler de la fondation Konrad Adenauer. Konrad Adenauer Stiftung, à droite, donc qui est attaché au CDU. Friedrich Ebert Stiftung, chez les socialistes, qui est attaché donc au SPD. Il y a également la fondation Rosa Luxembourg, qui est attachée à Die Linke. Et il y a, par exemple, Heinrich Böll Stiftung, donc toujours fondation chez les Verts. Et Anne Seidel, qui est avec chez les conservateurs bavarois du CSU. Il y en a, alors, ENOP regroupe une cinquantaine de fondations. On en a 52 exactement. On en a accueilli une nouvelle, une fondation polonaise libérale, donc centriste, il y a quelques semaines à peine. Et nos fondations, en fait, appartiennent à 6 groupes politiques européens. Vous avez peut-être connaissance des partis, des groupes politiques européens au niveau du Parlement européen. En fait, ça, c'est calqué sur ce modèle-là, qui est donc, en fait, on a donc des fondations qui sont rattachées à la GUE, donc à la gauche, extrême gauche du spectre politique, aux socialistes ou démocrates, enfin en fonction de comment ils s'appellent dans certains pays, aux centristes, donc par exemple, donc ce qui correspondrait en France par exemple au mouvement En Marche ou au mouvement du Modem par exemple. Il y a également les Verts et enfin les conservateurs et on a une fondation qui est rattaché au groupe politique ICR, les conservateurs pour le renouveau européen, qui sont plutôt une branche de Tchèques et Polonais et de quelques autres pays qui s'étaient séparés du PPE et qui sont donc on a une fondation tchèque aussi qui appartient à ce groupe-là. Donc il y a 6 par famille politique qui sont représentées au sein d'ENOP. Une cinquantaine donc de fondations et c'est une vingtaine de pays. Les fondations politiques, donc ce n'est pas un parti politique, mais ce sont des associations souvent, parfois des instituts de recherche, enfin des think tanks. Parfois le format concret varie un peu, mais il s'agit d'associations qui ont un lien d'affiliation avec les partis politiques. Dans certains pays, il y a un financement. Dans d'autres pays, c'est interdit, etc. Et donc, leur taille, leur importance varie. Les fondations allemandes étant les plus anciennes, les plus riches, les plus dotées, certaines fondations ont des bureaux dans plus d'une centaine de pays à travers le monde. Et puis, il y a des petites fondations qui ont un bureau avec éventuellement quelques bénévoles, volontaires. Donc voilà, les ressources sont très diverses. Et ENOP, toutes ces fondations ont décidé de se réunir il y a une dizaine d'années pour travailler sur trois, quatre axes très précis. Le principal, c'est la promotion de la démocratie dans tout ce que ça englobe, la promotion de la démocratie comme modèle politique, comme modèle de participation des citoyens et des citoyennes à la vie publique et politique. Il y a le dialogue politique. Dans certains pays, en particulier en dehors de l'Europe, mais aussi parfois en Europe, le dialogue entre les institutions, les partis politiques et les citoyens est un peu difficile. Et donc, beaucoup de nos membres sont actifs dans des pays en dehors de l'Europe également à faciliter ce type de dialogue. Et enfin, soutenir et accompagner le développement durable. Le développement durable, encore une fois, dans énormément de domaines variés, on se calque un peu sur l'agenda 2030 des Nations Unies à cet égard. Et donc voilà, dans nos instances, la représentation des femmes et des hommes de manière paritaire et la plus et égale est évidemment une clé de comment dire, un fondement, un pilier de notre organisation. Nous avons un conseil, on va dire un petit conseil de un board, coordination board, qui est représenté par, il y a deux femmes et un homme. On a un conseil d'administration également où les femmes sont bien représentées. Et ENOP participe à travers ses membres à beaucoup de projets, justement, pour encourager, faciliter, former. On parlait d'éducation tout à l'heure, de former la participation des femmes à la vie publique et politique. Et donc, c'est à cette occasion que je viens aujourd'hui pour vous parler un peu de femmes et d'organisations politiques en Europe. Alors, la Fondation Gabrielle Péri a eu la gentillesse de m'inviter en me demandant d'être positive, d'apporter, c'est ça le nom de la session, perspective positive à la participation des femmes. Je dois vous avouer, je vais vous faire une petite présentation un peu de l'état des lieux de la participation des femmes en Europe. On va voir ensemble ce qui est positif et ce qui reste encore à améliorer. Tout d'abord, ce que je voudrais partager avec vous, c'est qu'il y a deux grandes initiatives au niveau, même trois on pourrait dire, il y en a une que je n'ai pas notée ici, trois grandes initiatives au niveau européen, justement pour surveiller et voir un peu ce qui se passe au niveau de l'égalité entre les hommes et les femmes. Il s'agit de l'Institut... attendez, je ne vois pas très bien en même temps mon écran. Je vais peut-être juste essayer de le bouger sans trop tout déranger. Voilà, c'est parfait comme ça, c'est très bien. Merci beaucoup. Donc il s'agit de l'Agence européenne pour l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est l'Institut européen. Donc c'est une agence européenne comme il y a d'autres agences qui existent à travers l'Europe. Cette agence recense les écarts donc, dans de nombreux domaines, on va y venir, entre les hommes et les femmes. Elle recueille et analyse toutes les données relatives aux inégalités de genre. Et justement, en fait, avec toutes ces données, les ressources, les recherches et les rapports qu'ils font, essaye d'aider les responsables politiques à rapprocher la vie des femmes et des hommes en termes de représentation, en termes d'égalité, en termes d'accès aux opportunités. Et à cette fin, il y a un indice d'égalité des genres qui est édité assez régulièrement. Le dernier dont j'ai eu connaissance a été publié en 2017. Vous voyez que ce n'est que la troisième édition, donc ce n'est pas si vieux que ça. Et c'est un outil qui est aussi utilisé en particulier par les institutions européennes et la Commission européenne. La Commission européenne a lancé il y a quelques années un programme en fait d'égalité, de promotion de l'égalité homme-femme, une stratégie qui s'achève justement en 2019 et qui s'appuie en grande partie sur les informations partagées par l'Institut. L'indice d'égalité des genres est très intéressant parce qu'il s'attache à recenser les écarts entre hommes et femmes dans six domaines en particulier: le pouvoir, le temps, le savoir, la santé, l'argent et le travail. Le temps, c'est par exemple le temps domestique, le temps passé aux tâches ménagères. Le savoir, c'est l'accès à l'éducation, l'accès à l'université, l'accès à tout ce qui va être de l'ordre de la formation intellectuelle. La santé, l'argent, le travail. Et voilà, on va aujourd'hui surtout vous parler de tout ce qui est relatif au pouvoir, mais il est intéressant aussi de savoir que cet indice, il a une approche intersectorielle. Ça veut dire que au-delà juste des données factuelles, on essaie aussi de prendre en compte dans beaucoup d'indices de l'éducation, de l'âge, de la composition de la famille, de la parentalité, etc. Alors, entre 2005 et 2015, globalement, l'indice révèle des points de progression, quatre points de progression, qui est quand même, assez entre 2000, en 10 ans, c'est pas énorme. Et ce qui est intéressant, lorsqu'on regarde en particulier sur les questions de pouvoir politique, de représentation des femmes dans les sphères politiques, économiques et sociales, dans la sphère politique, dans le pouvoir politique, il va s'agir donc de la représentation des femmes dans les parlements nationaux, dans les gouvernements, dans les institutions locales. Également le pouvoir économique, le nombre d'hommes et de femmes dans les conseils d'administration, le nombre de femmes qui sont chefs d'entreprise, le nombre de femmes qui sont dans les conseils d'administration de grandes sociétés, petites sociétés, donc tout ce genre de choses. Et le pouvoir social, c'est en particulier dans tout ce qui va être de l'ordre de la représentation des femmes et la présence des femmes dans des postes de décision. Donc on parle vraiment de pouvoir dans tout ce qui va être université, recherche, médias, sport, etc. Alors, je ne sais pas si on peut bien voir, mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir que finalement, les chiffres ne sont pas si extraordinaires que ça, malgré tout, malheureusement. Au niveau européen, le nombre de femmes représentées dans les assemblées nationales reste en dessous de 30%. Dans les parlements également, et au niveau régional, c'est encore un peu plus faible. Au niveau économique, le nombre de femmes qui sont membres de conseils d'administration, là aussi, on est autour de 25%. Donc voilà, là, c'est quelques chiffres. C'était vraiment pour vous donner un éventail. Je ne sais pas si on voit bien. Je pourrais évidemment partager la présentation par la suite. Attendez, je vais essayer de... Ce que ça relève surtout, c'est que la représentation des femmes reste aujourd'hui largement minoritaire dans tous les domaines, ce n'est pas une grande surprise, et que malheureusement, les progrès quand même sont assez lents. En termes de pouvoir en particulier, il était intéressant de regarder dans le détail la place des femmes, la proportion des femmes dans les parlements, par exemple. Et ici, donc, la ligne rouge, c'est la moyenne, européenne. Et donc là, les scores les plus élevés dans le domaine du pouvoir politique dans les parlements reviennent, grande surprise, à la Suède, à la Finlande, mais aussi à l'Espagne, qui a instauré un système de quotas récemment, dont on va parler dans un instant, et qui a porté ses fruits. Les scores les plus faibles sont dans la Hongrie, Chypre et Malte. Donc ça, c'est au niveau des parlements nationaux. Et vous allez voir que la courbe, en fait, toutes les courbes se ressemblent un peu. Dans le domaine des gouvernements et des positions d'importance, encore une fois, c'est l'Espagne, la Suède et la France qui s'en sortent plutôt bien. Et encore une fois, c'est la Hongrie, Malte et la Lituanie qui sont en bas du classement. Là où c'est surtout intéressant de regarder, c'est la proportion des femmes dans les assemblées régionales. Et là, il y a une courbe qui rajoute également la croissance les 10 dernières années, entre 2015 et 2018, les 15 dernières années. En fait, on est passé d'une moyenne en dessous de 30% à une moyenne au-dessus de 30%. En fait, tout ce que l'indice, toute la présentation pour le moment qu'on voit, c'est, je vous montre ceci et je vous montre également au niveau du Parlement européen, ce qu'on voit, c'est que partout, il y a du progrès. Et je parlais tout à l'heure avec l'un de vos collègues sur la question du progrès, sur la question de l'avancée, sur la question de l'amélioration. Il y a des améliorations. Il y a un intérêt croissant, il y a une place, il y a des initiatives qui sont apportées sur la place des femmes au niveau européen, mais ça reste encore faible, et ça reste encore faible, d'autant plus lorsqu'on est, qu'on voit au niveau de beaucoup d'organisations qui sont en Europe très prompts à vouloir intervenir à l'extérieur de l'Europe, à vouloir montrer dans les pays tiers à quel point la participation des femmes est importante pour les démocraties en transition, pour les nouvelles démocraties, etc. Et puis parfois, en Europe même, ça reste compliqué. Donc au niveau du Parlement européen, qui est plutôt en général un fer de lance de ce type de campagne, ça reste encore fragile, même si voilà, on est passé d'une représentation des femmes aux premières élections qui était de l'ordre de 16-17% à aujourd'hui près de la moitié. Lorsqu'on parle d'égalité des genres dans les représentations, ce qui est aussi intéressant de regarder, c'est dans le détail, c'est de regarder quels postes sont disponibles pour ce genre de poste. Et finalement, c'est surtout dans les petits ronds, les petits camemberts, ce qu'on voit, c'est que c'est souvent les postes qui sont liés à des sujets, on va dire, socioculturels, éducation, santé, affaires sociales, que les femmes ont le plus de fonctions, même s'il y a plus de 30% depuis 2004 à ce niveau-là. Je vous parlais des quotas récemment. Il y a eu effectivement une avancée grâce à des quotas. Une dizaine de pays qui l'ont intégré ces dernières années. Il y a une différence. On voit une différence très clairement. C'est, on va dire, entre 8 et 20 points qui vont être gagnés par rapport à ce qui était avant-après. Mais il y a aussi parfois des résultats un peu inégaux. Par exemple, en Croatie, même si la représentation des femmes a tout d'un coup sauté de 19%, près de 20% aux dernières élections en 2011, l'effort n'a pas été poursuivi. Et tout d'un coup, il y a une chute, même si elle n'est pas équivalente. Mais en 2018, on s'est un peu reposé sur les acquis. Et c'est vraiment une lutte de tous les jours. Donc voilà, comme je vous disais, il y a des records historiques par rapport à la proportion des femmes dans les postes de pouvoir, mais malgré tout, il ne reste que 6 sur 28 parlements nationaux qui est dirigé par une femme. Et il reste de grandes disparités en fonction des pays. Sur la question des organisations politiques, donc là on a vu un peu dans les institutions, sur les partis politiques, là, il y a finalement toujours moins de 20% de femmes à la tête des partis politiques et un tiers à la tête en charge de postes de direction. Et ce qui est terrible surtout, c'est qu'on voit l'évolution entre 2011 et 2019. Ça bouge un peu, mais on va dire que c'est très proche de l'encéphalogramme plat, on va dire, en termes de répartition. Là où c'est en fait même au niveau de l'OSCE et différentes institutions aujourd'hui se rendent compte qu'il y a pourtant des bénéfices très identifiés, très marqués, très clairs sur l'importance, les bénéfices de la participation des femmes pour les partis politiques, ne serait-ce qu'en termes d'image et de représentation et de réputation du parti. Ça améliore les programmes, ça renforce les stratégies électorales et souvent on a identifié que c'était un rempart à la baisse des adhésions dans certains pays. Également, au niveau de la société, ça augmente la confiance du public dans le système politique, dans l'agenda, etc. Aujourd'hui, il y a un grand débat, encore, comme je vous le disais tout à l'heure, entre l'amélioration soft, douce, les quotas, faire des efforts. Et puis, de plus en plus, on parle de sanctions maintenant. Comme on introduit parfois dans les sociétés, il y a des lois qui sont passées au niveau des sociétés en termes parfois salariales, parfois économiques, parfois représentation. La question de la promotion de la gouvernance égalitaire commence à aussi faire l'objet parfois de questions de sanctions. Un point positif, c'était la question de la Suède. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais effectivement, la Suède, aujourd'hui, est pris comme modèle. C'est 4 siècles de réformes. Les premières réformes éducation datent du XVIIe siècle. Au niveau de la justice, au niveau des droits sexuels et reproductifs, le droit d'accoucher, par exemple, dans l'anonymat, remonte au XVIIIe siècle. Donc, aujourd'hui, en Suède, tous ces efforts-là ont donné lieu au fait qu'il n'y ait pas de quotas, qui est des listes électorales paritaires, qui est un gouvernement paritaire, qui est beaucoup de femmes au niveau du gouvernement. Mais même en Suède, il reste aujourd'hui seulement 12% de femmes dans les conseils d'administration des grandes compagnies et le congé parental est encore pris majoritairement par les femmes. Tout ça pour dire que c'est un sujet qui est de plus en plus présent. Il y a même des initiatives qui sont prises au niveau anecdotique. Il y a des groupes à Bruxelles, par exemple, qui disent pas la moitié de femmes, pas de panel, pas de débat. Et qui sont, par exemple, des associations qui sont même stigmatisées en montrant les panels où il n'y a que des hommes. Il y a des initiatives comme ça. Il y a beaucoup d'organisations politiques, associatives, pour lesquelles la parité, par exemple, dans les panels de débatteurs, sont devenues la règle. Ce n'était pas encore le cas, même peut-être il y a 4-5 ans, lorsqu'on en parlait dans certaines associations, c'était qui est disponible, etc. Mais malgré tous ces efforts, voilà une petite photo que j'ai trouvée sur le site de la Commission. Donc, ils ont eux-mêmes le sens de l'humour à la Commission européenne, puisque voilà, le dessinateur Kroll voilà, promeut le fameux plafond de verre. Et il reste encore du chemin à faire, même si voilà, tous les indicateurs montrent qu'il y a du progrès, mais qu'il reste timide. Merci. Merci.